Chapitre 9. Le lendemain, ce fut charmant, cette route à pied d'Interlaken-Grindenwald, où l'on devait, en passant, prendre les guides pour la petite Schneideck. Charmante, cette marche triomphale du PCA, rentrée dans ses houseaux et vêtements de campagne, s'appuyant d'un côté sur l'épaule maigrelette du commandant Bravida, et de l'autre au bras robuste des Skulbanies, fiers tous les deux d'encadrer, de soutenir leur cher président, de porter son piolet, son sac, son alpenstock, tandis que, tantôt devant, tantôt derrière ou sur les flancs, gambadait comme un jeune chien le fanatique Pascalon, sa bannière dûment empaquetée et roulée pour éviter les scènes tumultueuses de la veille. La gaieté de ses compagnons, le sentiment du devoir accompli, la Jungfrau toute blanche là-bas dans le ciel comme une fumée, il n'en fallait pas moins pour faire oublier au héros ce qu'il laissait derrière lui, à tout jamais peut-être et sans un adieu. Aux dernières maisons d'Interlaken, ses paupières se gonflèrent, et tout en marchant, il s'épanchait à tour de rôle dans le sein des Skurbanies. Écoutez, Spirit Dion, ou dans celui de Bravida, vous me connaissez, Placide. Car, par une ironie de la nature, ce militaire indomptable s'appelait Placide, et Spiridion, ce buffle peau rude aux instincts matériels. Malheureusement, la race tarasconnaise, plus galante que sentimentale, ne prend jamais les affaires de cœur au sérieux. Qui perd une femme et 15 sous, c'est grand dommage de l'argent, répondait le sentencieux Placide. Et Spiridion pensait exactement comme lui. Quant à l'innocent Pascalon, il avait des femmes une peur horrible et rougissait jusqu'aux oreilles lorsqu'on prononçait le nom de la petite Schneideck devant lui, croyant qu'il s'agissait d'une personne légère dans ses mœurs. Le pauvre amoureux en fut réduit à garder ses confidences et se consola tout seul, ce qui est encore le plus sûr. Quel chagrin d'ailleurs eût pu résister aux distractions de la route à travers l'étroite, profonde et sombre vallée où il s'engageait le long d'une rivière sinueuse, toute blanche d'écume, grondant comme un tonnerre dans l'écho des sapinières qu'il encaissait en pente sur ses deux rives. Les délégués tarasconnais, la tête en l'air, avançaient avec une sorte de terreur, d'admiration religieuse. Ainsi les compagnons de Simbad le marin, lorsqu'ils arrivèrent devant les palétuviers, les manguiers, toute la flore géante des côtes indiennes. Ne connaissant que leurs montagnettes pelées et pétrées, ils n'auraient jamais pensé qu'il pût y avoir tant d'arbres à la fois sur des montagnes si hautes. « Ce n'est rien cela, vous verrez la Jungfrau, » disait le PCA, qui jouissait de leur émerveillement et se sentait grandir à leurs yeux. En même temps, pour égayer le décor, humaniser sa note imposante, des cavalcades les croisaient sur la route, de grands landaus à fond de train avec des voiles flottant aux portières, des têtes curieuses qui se penchaient pour regarder la délégation serrée autour de son chef, et de distance en distance, les étalages de bibelots en bois sculpté, des fillettes plantées au bord du chemin, raides sous leurs chapeaux de paille à grands rubans, dans leurs jupes bigarrées, chantant des chœurs à trois voix, en offrant des bouquets de framboises et d'helvès. Parfois, le cor des Alpes envoyait aux montagnes sa ritournelle mélancolique, enflée, répercutée dans les gorges et diminuée lentement à la façon d'un nuage qui fond en vapeur. « C'est beau, on dirait des orgues !» murmurait Pascalon, les yeux mouillés, extasié comme un saint de vitrail. Excourbagnès hurlait sans se décourager, et l'écho répétait à perte de son intonation taroquette. « Oh, 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 fein de brute !» Mais on se lasse après 2 heures de marche dans le même décor. Fut-il organisé, vert sur bleu, dégracié dans le fond et sonore comme une horloge à musique. Le fracas des torrents, les cœurs à la tierce, les marchands d'objets au couteau, les petites bouquetières, devinrent insupportables à nos gens, l'humidité surtout, cette buée au fond de cet entonnoir, ce sol mou, fleuri de plantes d'eau, où jamais le soleil n'a pénétré. Il y a de quoi prendre une pleurésie, disait Bravida, retroussant le collet de sa jaquette. Puis la fatigue s'en mêla, la faim, la mauvaise humeur. On ne trouvait pas d'auberge, et pour s'être bourré de framboises, Scourbagnès et Bravida commençaient à souffrir cruellement. Pascalone lui-même, cet ange chargé non seulement de la bannière, mais du piolet, du sac, de l'alpenstock, dont les autres se débarrassaient lâchement sur lui. Pascalon avait perdu sa gaieté, ses vives gambades. Un tournant de route, comme il venait de franchir la Loutchine, sur un de ces ponts couverts qu'on trouve dans les pays de grande neige, une formidable sonnerie de corps les accueillit. « Ah, vaille, assez, assez !» hurlait la délégation exaspérée. L'homme, un géant, embusqué au bord de la route, lâcha l'énorme trompe en sapin descendant jusqu'à terre et terminé par une boîte à percussion qui donnait à cet instrument préhistorique la sonorité d'une pièce d'artillerie. « Demandez-lui donc s'il ne connaît pas une auberge !» dit le président Escourbagnès, qui, avec un énorme aplomb et un tout petit dictionnaire de poche, prétendait servir d'interprète à la délégation depuis qu'on était en Suisse allemande. Mais avant qu'il eût tiré son dictionnaire, le joueur de corps répondait en très bon français « Une auberge, messieurs, mais parfaitement, le chamois fidèle est tout près d'ici. Permettez-moi de vous y conduire. » Et chemin faisant, il leur apprit qu'il avait habité Paris pendant des années, commissionnaire au coin de la rue Vivienne. « Encore un de la compagnie, parbleu !» pensa Tartarin, laissant ses amis s'étonner. Le confrère de Bompard leur fut du reste fort utile, car malgré l'enseigne en français, les gens du chamois fidèle ne parlaient qu'un affreux patois allemand. Bientôt, la délégation tarasconnaise, autour d'une énorme omelette aux pommes de terre, recouvra la santé et la belle humeur, essentielles aux méridionaux, comme le soleil à leur pays. On but sec, on mangea ferme. Après force toast porté au président et à son ascension, Tartarin, que l'enseigne de l'auberge intriguait depuis son arrivée, demanda aux joueurs de corps, cassant une croûte dans un coin de la salle avec eux, « Vous avez donc du chamois par ici ? Je croyais qu'il ne restait plus en Suisse. » L'homme cligna des yeux. « Oh, ce n'est pas qu'il y en ait beaucoup, mais on pourrait vous en faire voir tout de même. »« C'est lui en faire tirer qu'il faudrait, mais, » dit Pascalon plein d'enthousiasme. « Jamais le président n'a manqué son coup. » Tartarin regretta de n'avoir pas apporté sa carabine. « Attendez donc, je vais parler au patron. » Il se trouva justement que le patron était un ancien chasseur de chamois. Il offrit son fusil, sa poudre, ses chevrotines, et même de servir de guide à ces messieurs vers un gîte qu'il connaissait. « En avant, zou !» fit Tartarin, cédant à ces alpinistes heureux de faire briller l'adresse de leur chef. Un léger retard, après tout, la Jungfrau ne perdait rien pour attendre. Sortis de l'auberge par derrière, ils n'eurent qu'à pousser la claire-voie du verger, guère plus grand qu'un jardinet de chef de gare, et se trouvèrent dans la montagne fendue de grandes crevasses rouillées entre les sapins et les ronces. L'aubergiste avait pris l'avance, et les Tarasconnais le voyaient déjà très haut, agitant les bras, jetant des pierres, sans doute pour faire lever la bête. Ils eurent beaucoup de mal à le rejoindre par ces pentes rocailleuses et dures, surtout pour des personnes qui sortent de table, et qui n'ont pas pris l'habitude de gravir que les bons alpinistes de Tarascon. Un air lourd avec cela, une allèle orageuse qui roulait des nuages lentement le long des cimes sur leur tête. « Bouffre !» geignait Bravida. Escourba nièce grognait « Outre !»« Que vous me feriez dire ?» ajoutait le doux et mêlant Pascalon. Mais le guide, leur ayant d'un geste brusque intimé l'ordre de se taire, de ne plus bouger. « On ne parle pas sous les armes, » dit Tartarin de Tarascon, avec une sévérité dont chacun prit sa part, bien que le président seul fût armé. Ils restaient là, debout, retenant leur souffle. Tout à coup, Pascalon cria « Vé, le chamois, vé !» À 100 mètres au-dessus d'eux, les cornes droites, la robe d'un fauve clair, les 4 pieds réunis au bord du rocher, la jolie bête se découpait comme en bois travaillé, les regardant sans aucune crainte. Tartarin épaula méthodiquement, selon son habitude. Il allait tirer, mais le chamois disparut. « C'est votre faute, » dit le commandant à Pascalon. « Vous avez sifflé, ça lui a fait peur. » « J'ai sifflé, moi. »« Alors, c'est Spiridion. Ah, ben, il est jamais de la vie. » On avait pourtant entendu un coup de sifflet strident, prolongé. Le président les mit tous d'accord, en racontant que le chamois, à l'approche de l'ennemi, pousse un signal aigu par les narines. Mais ce diable de Tartarin connaissait à fond cette chasse comme toutes les autres. Sur l'appel de leur guide, ils se mirent en route. Mais la pente devenait de plus en plus raide, les roches plus escarpées, avec des fondrières à droite et à gauche. Tartarin tenait la tête, se retournant à chaque instant pour aider les délégués, leur tendre la main ou sa carabine. La main, si ça ne vous fait rien, demandait le bon Bravida qui avait très peur des armes chargées. Nouveau signe du guide, nouvel arrêt de la délégation, le nez en l'air. Je viens de sentir une goutte, murmura le commandant tout inquiet. En même temps, la foudre gronda, et plus forte que la foudre, la voix des Scourbaniès. À vous, Tartarin! Le chamois venait de bondir tout près d'eux, franchissant le ravin comme une lueur dorée, trop vite pour que Tartarin pût épauler, pas assez pour les empêcher d'entendre le long sifflement de ses narines. J'en aurais raison, coquin de sort, dit le président, mais les délégués protestèrent. Escourbaniès, subitement très aigre, lui demanda s'il avait juré de les exterminer. « Cher maître, bêla timidement Pascalon, j'ai ouï dire que le chamois, lorsqu'on l'accule aux abîmes, se retourne contre le chasseur et devient dangereux. « Ne l'acculons pas, alors !» fit Bravida, terrible, la casquette en bataille. Tartarin les appela poules mouillées. Et brusquement, tandis qu'ils se disputaient, ils disparurent les uns aux yeux des autres dans une épaisse nuée tiède qui sentait le soufre et à travers laquelle ils se cherchaient et s'appelaient. « Hé, Tartarin, êtes-vous là, Blacide ?»« Maître !» Du sang-froid, du sang-froid! Une vraie panique! Puis un coup de vent creva le nuage, l'emporta comme une voile arrachée flottant aux ronces, d'où sortit un éclair en zigzag avec un épouvantable coup de tonnerre sous les pieds des voyageurs. Ma casquette! Cria Spiridion, décoiffé par la tempête, les cheveux tout droits, crépitant d'étincelles électriques. Ils étaient en plein cœur de l'orage, dans la forge même de Vulcain. Bravida, le premier, s'enfuit à toute vitesse. Le reste de la délégation s'élançait derrière lui, mais un cri du PCA qui pensait à tous les retins. « Malheureux, gare à la foudre !» Du reste, en dehors du danger très réel qu'il leur signalait, on ne pouvait guère courir sur ces pentes abruptes, ravinées, transformées en torrents, en cascades par toute l'eau du ciel qui tombait. Et le retour fut sinistre, à pas lents, sous la folle radée, parmi les courts éclairs suivis d'explosions, avec des glissades, des chutes, des haltes forcées. Pascalon se signait, invoquait tout haut, comme à Tarascon, Sainte Marthe et Sainte Hélène, Sainte Marie-Madeleine, pendant qu'Escourbagnès se jurait qu'aucun ne sort, et que Bravida, l'arrière-garde, se retournait, saisi d'inquiétude. « Oh, que diable est-ce qu'on entend derrière nous, ça siffle, ça galope, puis ça s'arrête ?» L'idée du chamois furieux, se jetant sur les chasseurs, ne lui sortait pas de l'esprit à ce vieux guerrier. Tout bas, pour ne pas effrayer les autres, il fit part de ses craintes à Tartarin, qui bravement prit sa place à l'arrière-garde et marcha la tête haute, trempée jusqu'aux os, avec la détermination muette que donne l'imminence d'un danger. Par exemple, rentré à l'auberge, lorsqu'il vit ses chers alpinistes à l'abri, en train de s'étriller, de s'essorer autour d'un énorme poêle en faïence, dans la chambre du premier étage où montait l'odeur du grog au vin commandé, le président s'écouta frissonner et déclara très pâle « Je crois bien que j'ai pris le mal. » Prendre le mal, expression de terroir sinistre dans son vague et sa brièveté, qui dit toutes les maladies, peste, choléra, vomito negro, les noirs, les jaunes, les foudroyantes, dont se croit atteint le Tarasconnais à la moindre indisposition. Tartarin avait pris le mal. Oh, il n'était plus question de repartir, et la délégation ne demandait que le repos. Vite on fit bassiner le lit, on pressa le vin chaud, et dès le second verre, le président sentit par tout son corps douillet une chaleur, un picotis de bon augure. Deux oreillers dans le dos, un plumeau sur les pieds, son passe-montagne serrant la tête, il éprouvait un bien-être délicieux à écouter les rugissements de la tempête, dans la bonne odeur de sapin de cette pièce rustique aux murs en bois, aux petites vitres plombées, à regarder ses chers alpinistes pressés autour du lit, le verre en main avec les tournures hétéroclites que donnaient à leur type gaulois, sarrasins ou romains, les courtines, rideaux, tapis dont ils s'étaient affublés, tandis que leurs vêtements fumaient devant le poêle. S'oubliant lui-même, il les questionnait d'une voix dolente. « Êtes-vous bien, Placide ?»« Spiridion, vous sembliez souffrir tout à l'heure. » Non, Spiridion ne souffrait plus. Cela lui avait passé en voyant le président si malade. Bravida, qui accommodait la morale aux proverbes de son pays, ajouta cyniquement « Mal de voisin réconforte et même guérit !» Puis ils parlèrent de leur chasse, s'échauffant au souvenir de certains épisodes dangereux, ainsi quand la bête s'était retournée furieuse, et, sans complicité de mensonge, bien ingénument, ils fabriquaient déjà la fable qu'ils raconteraient au retour. Soudain, Pascalon, descendu pour aller chercher une nouvelle tournée de grog, apparut tout effaré, un bras nu hors du rideau à fleurs bleues qu'il ramenait contre lui d'un geste pudique à la polyeucte. Il fut plus d'une seconde sans pouvoir articuler tout bas la laine courte « Les chamois !»« Eh bien, le chamois !»« Il est en bas, à la cuisine, il se chauffe. »« Ah ouais, tu badines ! Si vous alliez voir, Placide !» Bravida hésitait. Escourbagnès descendit sur la pointe du pied, puis revint, presque tout de suite, la figure bouleversée. De plus en plus fort, le chamois buvait du vin chaud. On lui devait bien cela, la pauvre bête, après la course folle qu'elle avait fournie dans la montagne, tout le temps relancée ou rappelée par son maître, qui d'ordinaire se contentait de la faire évoluer dans la salle, pour montrer aux voyageurs comme elle était d'un facile dressage. « C'est écrasant !» dit Bravida, n'essayant plus de comprendre. Tandis que Tartarin enfonçait le passe-montagne en casque à mèche sur ses yeux, pour cacher aux délégués la douce hilarité qui le gagnait, en rencontrant à chaque étape, avec ses trucs et ses comparses, la Suisse rassurante de Bompard. Chapitre 10. Grande affluence ce matin-là à l'hôtel Bellevue sur la petite Scheidegg. Malgré la pluie et les rafales, on avait dressé les tables dehors, à l'abri de la véranda, parmi tout un étalage d'alpenstock, gourdes, longues-vues, coucous en bois sculpté, et les touristes pouvaient, en déjeunant, contempler à gauche, à quelques 2000 mètres de profondeur, l'admirable vallée de Grindelwald, à droite, celle de Lauterbrunnen, et en face, à une portée de fusil, semblait-il, les pentes immaculées et grandioses de la Jungfrau, ses névés, ses glaciers, toute cette blancheur réverbérée, illuminant l'air alentour, faisant les verres encore plus transparents et les nappes encore plus blanches. Mais depuis un moment, l'attention générale se trouvait distraite par une caravane tapageuse et barbue qui venait d'arriver à cheval, mulet, à âne même, en chaise à porteur, et se préparait à l'escalade par un déjeuner copieux, plein d'entrain, dont le vacarme contrastait avec les airs ennuyés, solennels, des riz et pruneaux très illustres réunis à la Scheidegg. Lord Chippendale, sénateur belge et sa famille, le diplomate austro-hongrois, d'autres encore. On aurait pu croire que tous ces gens barbus, attablés ensemble, allaient tenter l'ascension, car ils s'occupaient à tour de rôle des préparatifs de départ, se levaient, se précipitaient pour aller faire des recommandations aux guides, inspecter les provisions, et d'un bout de la terrasse à l'autre, ils s'interpellaient de cris terribles. « Hé, Placide, vais à la terrine si elle est dans le sac. N'oubliez pas, la lampe à chalumeau au moins. » Au départ seulement, on vit qu'il s'agissait d'une simple conduite et que de toute la caravane, un seul allait monter. Mais quel un ! Enfin, y sommes-nous ! Dit le bon Tartarin d'une voix triomphante et joyeuse, où ne semblait pas l'ombre d'une inquiétude pour les dangers possibles du voyage. Son dernier doute sur le trucage de la Suisse s'étant dissipé le matin même, devant les deux glaciers de Grindelwald, précédé chacun d'un guichet et d'un tourniquet avec cette inscription « Entrée du glacier, 1,50 €. » Il pouvait donc savourer sans regret ce départ en apothéose, la joie de se sentir regardé, envié, admiré par ces effrontées petites misses à coiffures étroites, de jeunes garçons qui se moquaient si gentiment de lui au Rigiculm, et à cette heure s'enthousiasmait en comparant ce petit homme avec l'énorme montagne qu'il allait gravir. L'une faisait son portrait sur un album, celle-ci tenait à honneur de toucher son alpenstock. « Chimpaigne, Chimpaigne !» s'écria tout à coup un long funèbre anglais au teint briqueté, s'approchant le verre et la bouteille en main. Puis après avoir obligé le héros à trinquer, « Lord Chippendale, sir, et vous ?»« Tartarin de Tarascon. »« Oh, yes, Tartarin. Il était très joli nom pour un cheval, » dit le lord, qui devait être quelque peu forceman d'outre-manche. Le diplomate austro-hongrois vint aussi serrer la main de l'alpiniste entre ses mitaines, se souvenant vaguement de l'avoir entrevu à quelque endroit. Enchanté, annonça-t-il plusieurs fois, et ne sachant plus comment en sortir, il ajouta compliment à madame, sa formule mondaine pour brusquer les présentations. Mais les guides s'impatientaient, il fallait atteindre avant le soir la cabane du club alpin où l'on couche en première étape. Il n'y avait pas une minute à perdre. Tartarin le comprit, salua d'un geste circulaire, sourit paternellement aux malicieuses miss, puis d'une voix tonnante « Pascalon, la bannière !» Elle flotta. Les méridionaux se découvrirent, car on aime le théâtre à Tarascon. Et sur le cri 20 fois répété « Vive le président! Vive Tartarin! Ha ha! Fais du bruit !» la colonne s'ébranla. Les deux guides en tête, portant le sac, les provisions, des fagots de bois, puis Pascalon tenant l'oriflamme, enfin le PCA et les délégués qui devaient raccompagner jusqu'au glacier de Gudji. Ainsi, déployé en procession, avec son claquement de drapeau sur ses fonds mouillés, ses crêtes dénudées ou neigeuses, le cortège évoquait vaguement le jour des morts à la campagne. Tout à coup, le commandement cria fort à l'armée « Vers les bœufs !» On voyait quelques bétails broutant l'herbe rase dans les ondulations de terrain. L'ancien militaire avait de ses animaux une peur nerveuse insurmontable, et comme on ne pouvait le laisser seul, la délégation dut s'arrêter. Pascalon transmit l'étendard à l'un des guides, puis, sur une dernière étreinte, des recommandations bien rapides, l'œil aux vaches, et adieu, qui ? Pas d'imprudence, au moins, ils se séparèrent. Quant à proposer au président de monter avec lui, pas un n'y songea. C'était trop haut, bouffre. À mesure qu'on approchait, cela grandissait encore, les abîmes se creusaient, les pics se hérissaient dans un blanc chaos que l'on eût dit infranchissable. Mais il valait mieux regarder l'ascension de la Scheidegg. De sa vie, naturellement, le président du club des Alpines n'avait mis les pieds sur un glacier. Rien de semblable dans les montagnettes de Tarascon embaumées et sèches comme un paquet de vétiver. Et cependant, les abords du Gudji lui donnaient une sensation de déjà-vu, éveillaient le souvenir de chasses en Provence, tout au bout de la Camargue vers la mer. C'était la même herbe, toujours plus courte, grillée comme roussie au feu. Ça et là, des flaques d'eau, des infiltrations trahies de roseaux grêles, puis la moraine, comme une dune mobile de sable, de coquilles brisées, d'escarbilles, et au bout, le glacier aux vagues bleu-vert, crêtées de blanc, moutonnantes comme des flots silencieux et figés. Le vent qui venait de là, sifflant et dur, avait aussi le mordant, la fraîcheur salubre des brises de mer. Non, merci, je mets crampons, fit Tartarin au guide lui offrant des chaussons de laine pour passer sur ses bottes. Crampons, Kennedy, perfectionné, très commode. Il criait comme pour un sourd afin de mieux se faire entendre et comprendre de Christian Inebit qui ne savait pas plus de français que son camarade Kaufmann. Et en même temps, assis sur la moraine, ils fixaient par leur courroie des espèces de socs ferrés de 3 énormes et fortes pointes. 100 fois, ils les avaient expérimentés, ces crampons Kennedy manœuvrés dans le jardin du Baobab. Néanmoins, l'effet fut inattendu. Sous le poids du héros, les pointes s'enfoncèrent dans la glace avec tant de force que toutes les tentatives pour les retirer furent vaines. Voilà Tartarin, cloué au sol, suant, jurant, en faisant des bras et de l'alpenstock une télégraphie désespérée, réduit enfin à rappeler ses guides qui s'en allaient devant, persuadés qu'ils avaient affaire à un alpiniste expérimenté. Dans l'impossibilité de le déraciner, on défit les courroies et les crampons abandonnés dans la glace. Remplacé par une paire de chaussons tricotés, le président continua sa route, non sans beaucoup de peine et de fatigue. Inhabile à tenir son bâton, il y butait les jambes, le fer patinait, l'entraînait quand il s'appuyait trop fort. Il essaya du piolet, plus dur encore à manœuvrer. La houle du glacier s'accentuant à mesure, bousculant l'un par-dessus l'autre ses flots immobiles dans une apparence de tempête furieuse et pétrifiée. Immobilité apparente, car des craquements sourds, de monstrueux borborygmes, d'énormes quartiers de glace se déplaçant avec lenteur comme des pièces truquées d'un décor, indiquait l'intérieur, vide toute cette masse figée, ces traîtrises d'éléments. Et sous les yeux de l'alpiniste, au jeté de son pic, des crevasses se fendaient, des puits sans fond où les glaçons en débris roulaient indéfiniment. Le héros tomba à plusieurs reprises, une fois jusqu'à mi-corps, dans un de ces goulots verdâtres, où ses larges épaules le retinrent au passage. À le voir si maladroit et en même temps si tranquille et sûr de lui, riant, gesticulant, chantant, comme tout à l'heure pendant le déjeuner, les guides s'imaginèrent que le champagne suisse l'avait impressionné. Pouvait-il supposer autre chose d'un président de club alpin, d'un ascensionniste renommé dont ses camarades ne parlaient qu'avec des « ah » et de grands gestes. L'ayant pris chacun sous un bras avec la fermeté respectueuse de policemen mettant en voiture un fils de famille éméché, il tâchait, à l'aide de monosyllabes et de gestes, d'éveiller sa raison au danger de la route, à la nécessité de gagner la cabane avant la nuit. Il le menaçait des crevasses, du froid, des avalanches. Et de la pointe de leur piolet, il lui montrait l'énorme accumulation des glaces, les névés en mur inclinés devant eux jusqu'au zénith, dans une réverbération aveuglante. Mais le bon Tartarin se moquait bien de tout cela. Ah ben, il y a les crevasses, ah ben, il y a les avalanches. Et il pouffait le rire en clignant de l'œil, leur envoyait des coups de coude dans les côtes pour bien faire comprendre à ses guides qu'on ne l'abusait pas, qu'il était dans le secret de la comédie. Les autres finissaient par s'égayer à l'entrain des chansons tarasconnaises, et quand il posait une minute sur un bloc solide pour permettre au monsieur de reprendre haleine, il yodelait à la mode suisse, mais pas bien fort, de crainte des avalanches, ni bien longtemps, car l'heure avançait. On sentait le soir proche au froid plus vif et surtout à la décoloration singulière de toutes ces neiges, ces glaces amoncelées, surplombantes, qui même sous un ciel brumeux gardent un frisement de lumière. Mais lorsque le jour s'éteint, remontées vers les cimes fuyantes, prennent des teintes livides, spectrales, de monde lunaire. Pâleur, congélation, silence, toute la mort. Et le bon Tartarin, si chaud, si vivant, commençait pourtant à perdre sa verve quand un cri lointain d'oiseau, le rappel d'une perdrix des neiges sonnant dans cette désolation, fit passer devant ses yeux une campagne brûlée, et sous le couchant couleur de braise, Des chasseurs tarasconnais, s'épongeant le front, assis sur leur carnier vide, dans l'ombre fine d'un olivier. Ce souvenir le réconforta. En même temps, Kaufmann lui montrait au-dessus d'eux quelque chose ressemblant à un fagot de bois sur la neige. Dix huttes, c'était la cabane. Il semblait qu'on dût l'atteindre en quelques enjambées, mais il fallait encore une bonne demi-heure de marche. L'un des guides alla devant pour allumer le feu. La nuit descendait maintenant, la bise piquait sur le sol cadavérique, et Tartarin, ne se rendant plus bien compte des choses, fortement soutenu par le bras du montagnard, butait, bondissait, sans un fil sec sur la peau, malgré l'abaissement de la température. Tout à coup, une flamme jaillit quelque part, portant une bonne odeur de soupe à l'oignon. On arrivait. Rien de plus rudimentaire que ces haltes établies dans la montagne par les soins du club alpin suisse. Une seule pièce, dont un plan de bois bure incliné, servant de lit, tient presque tout l'espace, n'en laissant que fort peu pour le fourneau et la table longue clouée au parapet comme les bancs qui l'entourent. Le couvert était déjà mis, trois bols, des cuillères d'étain, la lampe à chalumeau pour le café, deux conserves de Chicago ouvertes. Tartarin trouva le dîner délicieux, bien que la soupe à l'oignon empestât la fumée et que la fameuse lampe à chalumeau brevetée, qui devait parfaire son litre de café en 3 minutes, n'eût jamais voulu fonctionner. Au dessert, il chanta, c'était sa seule façon de causer avec les guides. Il chanta les airs de son pays, la Tarasque, les filles d'Avignon. Les guides répondaient par des chansons locales en patois allemand. « Mi Vater ist ein Appelzeller, au au !» Braves gens aux traits durs et frustes, taillés en pleine roche avec de la barbe dans les creux qui semblaient de la mousse, de ces yeux clairs habitués aux grands espaces comme en ont les matelots. Et cette sensation de la mer et du large qu'il avait tout à l'heure en approchant du Gouji, Tartarin la retrouvait ici, en face de ces marins du glacier, dans cette cabane étroite, basse et fumeuse, vrai entrepôt de navire, dans l'égouttement de la neige du toit qui fondait à la chaleur, et les grands coups de vent tombant en paquets d'eau, secouant tout, faisant craquer les planches, vaciller la flamme de la lampe, et s'arrêtant tout à coup sur un silence énorme, monstrueux, de fin du monde. On achevait de dîner quand des pas lourds sur le sol opaque, des voix approchèrent. Des bourrades violentes ébranlèrent la porte. Tartarin, très ému, regarda ses guides. Une attaque nocturne à ses hauteurs. Les coups redoublèrent. « Qui va là ?» fit le héros, sautant sur son piolet. Mais déjà la cabane était envahie par deux Yankees, gigantesques, masqués de toile blanche, les vêtements trempés de sueur et de neige. Puis derrière eux, des guides, des porteurs, toute une caravane qui venait de faire l'ascension de la Jungfrau. « Soyez les bienvenus, Milord !» dit le Tarasconnais, avec un geste large et dispensateur, dont les milords n'avaient nul besoin pour prendre leurs aises. En un tour de main, la table fut investie, le couvert enlevé, les bols et les cuillères passés à l'eau chaude pour servir aux arrivants, selon la règle établie en tous ces chalets alpins. Les bottes des milords fumaient devant le poêle, pendant qu'eux-mêmes, déchaussés, les pieds enveloppés de paille, s'étalait devant une nouvelle soupe à l'oignon. Le père et le fils, ces Américains, deux géants roux, têtes de pionniers, durs et volontaires. L'un d'eux, le plus âgé, avait dans sa face boursouflée, hâlée, craquelée, des yeux dilatés, tout blancs. Et bientôt, à son hésitation tâtonnante autour de la cuillère et du bol, au soin que son fils prenait de lui, Tartarin comprit que c'était le fameux alpiniste aveugle dont on lui avait parlé à l'hôtel Bellevue et auquel il ne voulait pas croire, grimpeur fameux dans sa jeunesse qui, malgré ses 60 ans et son infirmité, recommençait avec son fils toutes ses courses d'autrefois. Il avait déjà fait ainsi le Fetterhorn et la Jungfrau, comptait à attaquer le Cervin et le Mont-Blanc, prétendant que l'air des cimes, cette aspiration froide de goût de neige, lui causait une joie indicible, tout un rappel de sa vigueur passée. « Différemment, » demandait Tartarin à l'un des porteurs, car les Yankees n'étaient pas communicatifs et ne répondaient que « yes » et « no » à toutes ces avances. « Différemment, puisqu'il n'y voit pas, comment s'arrange-t-il au passage dangereux ?»« Oh, il a le pied montagnard, et puis son fils est là, qui le veille, lui place les talons. Le fait est qu'il s'en tire toujours sans accident. »« D'autant que les accidents ne sont jamais bien terribles, mais... » Après un sourire d'entente au porteur ahuri, le Tarasconnais, persuadé de plus en plus que tout ça c'était de la blague, s'allongea sur la planche, roulé dans sa couverture, le passe-montagne jusqu'aux yeux, et s'endormit malgré la lumière, le train, la fumée des pipes et l'odeur de l'oignon. « Monsieur, monsieur !» Un de ses guides le secouait pour le départ, pendant que l'autre versait du café bouillant dans les bols. Il y eut quelques jurons, des grognements de dormeurs que Tartarin écrasait au passage pour gagner la table puis la porte. Brusquement, il se trouva dehors, saisi de froid, ébloui par la réverbération féerique de la lune sur ses blanches nappes, ses cascades figées où l'ombre des pics, des aiguilles, des séracs se découpait d'un noir immense. Bon, ce n'était plus l'étincelant chaos de l'après-midi, ni le livide amoncellement des teintes grises du soir, mais une ville accidentée de ruelles sombres, de coulées mystérieuses, d'angles douteux entre des monuments de marbre et des ruines effritées, une ville morte avec de larges places désertes. 2 heures, en marchant bien, on serait là-haut pour midi. « Zou !» dit le PCA, tout gaillard et s'élançant comme un lasso. Mais ses guides l'arrêtèrent. Il fallait s'attacher pour ces passages périlleux. « Ah, bah, s'attacher ! Enfin, si ça vous amuse !» Christian Inebit prit la tête, laissant 3 mètres de corde entre lui et Tarin, qu'une même distance séparait du second guide chargé des provisions et de la bannière. Le Tarasconnais se tenait mieux que la veille, et vraiment il fallait que sa conviction fût faite pour qu'il ne prît pas au sérieux les difficultés de la route, si l'on peut appeler route, la terrible arête de glace sur laquelle ils avançaient avec précaution, large de quelques centimètres et tellement glissante que le piolet de Christian devait y tailler des marches. La ligne de l'arête étincelait entre 2 profondeurs d'abîme. Mais si vous croyez que Tartarin avait peur, pas plus. À peine le petit frisson à fleur de peau du franc-maçon novice auquel on fait subir les premières épreuves. Il se posait très exactement dans les trous creusés par le guide de tête, faisait tout ce qu'il lui voyait faire, aussi tranquille que dans le jardin du Baobab, lorsqu'il s'exerçait autour de la margelle au grand effroi des poissons rouges. Un moment, la crête devint si étroite qu'il fallut se mettre à califourchon, et pendant qu'ils allaient lentement, s'aidant des mains, une formidable détonation retentit à droite au-dessous d'eux. « Avalanche !» dit Nembut, immobile, tant que dura la répercussion des échos nombreuses, grandioses, à remplir le ciel, et terminée par un long roulement de foudre qui s'éloigne ou qui tombe en détonation perdue. Après, le silence s'étala de nouveau, couvrit tout comme un suaire. L'arête franchie, ils s'engagèrent sur un névé de pente assez douce, mais d'une longueur interminable. Ils grimpaient depuis plus d'une heure, quand une mince ligne rose commença à marquer les cimes là-haut, bien haut sur leur tête. C'était le matin qui s'annonçait. En bon méridional, ennemi de l'ombre, Tartarin entonnait son chant d'allégresse. « Grand soleil de la province, au gay compère du mistral !» Une brusque secouée de la corde par devant et par derrière l'arrêta net au milieu de son couplet. « Chut, chut !» faisait Inembit, montrant du bout de son piolet la ligne menaçante des séracs gigantesques et tumultueux aux assises branlantes et dont la moindre secousse pouvait déterminer l'éboulement. Mais le Tarasconnais savait à quoi s'en tenir. Ce n'est pas à lui qu'il fallait pousser de pareilles bourdes. Et d'une voix retentissante, il reprit « Tu qu'est-ce que laisse la doulance comme un flot divin de crocs ?» Les guides, voyant qu'ils n'auraient pas raison de l'enragé chanteur, firent un grand détour pour s'éloigner des séracs et bientôt furent arrêtés par une énorme crevasse qu'éclairait en profondeur sur les parois d'un verre glauque le furtif et premier rayon du jour. Ce qu'on appelle un pont de neige la surmontait, si mince, si fragile, qu'au premier pas il s'éboula dans un tourbillon de poussière blanche, entraînant le premier guide et Tartarin, suspendus à la corde, que Rodolf Kaufmann, le guide d'arrière, se trouvait seul à soutenir, cramponné de toute sa vigueur de montagnard, à son piolet profondément enfoncé dans la glace. Mais s'il pouvait retenir les deux hommes sur le gouffre, la force lui manquait pour les en retirer. Et il restait accroupi, les dents serrées, les muscles tendus, trop loin de la crevasse pour voir ce qui s'y passait. D'abord abasourdi par la chute, aveuglé de neige, Tartarin s'était agité une minute des bras et des jambes en inconsciente détente, comme un pantin détraqué, puis redressé au moyen de la corde, il pendait sur l'abîme, le nez à cette paroi de glace que lissait son haleine, dans la posture d'un plombier en train de ressouder les tuyaux de descente. Il voyait, au-dessus de lui, pâlir le ciel, s'effacer les dernières étoiles, et au-dessous, s'approfondir le gouffre en opaques ténèbres d'où montait un souffle froid. Tout de même, le premier étourdissement passé, il retrouva son aplomb, sa belle humeur. Eh, là-haut, père Kaufmann, ne nous laissez pas moisir ici, qu'il y a des courants d'air et puis cette sacrée corde nous coupe les reins. Kaufmann aurait su répondre, desserrer les dents eût été perdre sa force. Mais Inembit criait du fond, « Monsieur, monsieur Piolet !» Car le sien s'était perdu dans la chute, et le lourd instrument passait des mains de Tartarin dans celles du guide, difficilement, à cause de la distance qui séparait les deux pendus, le montagnard s'en servit pour entailler la glace devant lui d'encoche où cramponnaient ses pieds et ses mains. Le poids de la corde ainsi affaibli de moitié, Rodolphe Kaufmann, avec une vigueur calculée et des précautions infinies, commença à tirer vers lui le président, dont la casquette tarasconnaise parut enfin au bord de la crevasse. Inebnit reprit pied à son tour, et les deux montagnards se retrouvèrent avec l'effusion aux paroles courtes qui suit les grands dangers chez ces gens d'élocution difficile. Ils étaient émus, tout tremblants de l'effort. Tartarin dut leur passer sa gourde de kirsch pour affermir leurs jambes. Lui paraissait disposé calme, et tout en se secouant, en battant la semelle en mesure, il fredonnait au nez des guides ébahis. « Brave, brave, Franzose !» disait Kaufmann, lui tapant sur l'épaule. Et Tartarin, avec son beau rire, « Farceur, je savais bien qu'il n'y avait pas de danger. » De mémoire de guide, on n'avait jamais vu un alpiniste pareil. Ils se remirent en route, grimpant à pic une sorte de mur de glace gigantesque de 6 à 800 mètres, où l'on creusait les degrés, mesures, ce qui prenait beaucoup de temps. L'homme de Tarascon commençait à se sentir à bout de force sous le brillant soleil que réverbérait toute la blancheur du paysage, d'autant plus fatigante pour ses yeux qu'il avait laissé ses lunettes dans le gouffre. Bientôt, une affreuse défaillance le saisit, ce mal des montagnes qui produit les mêmes effets que le mal de mer. Éreinté, la tête vide, les jambes molles, il manquait les pas et ses guides durent l'empoigner, chacun d'un côté comme la veille, le soutenant, le hissant jusqu'en haut du mur de glace. Alors, 100 mètres à peine les séparaient du sommet de la Jungfrau. Mais quoique la neige se fît dure et résistante, le chemin plus facile, cette dernière étape leur prit un temps interminable. La fatigue et la suffocation du PCA augmentant toujours. Tout à coup, les montagnards le lâchèrent et, agitant leurs chapeaux, se mirent à yodeler avec transport. On était arrivé. Ce point dans l'espace immaculé, cette crête blanche un peu arrondie, c'était le but. Et pour le bon Tartarin, la fin de la torpeur somnambulique dans laquelle il vaguait depuis 1 heure. « Scheideck, Scheideck !» criaient les guides, lui montrant tout en bas, bien loin, sur un plateau de verdure émergeant des brumes de la vallée, l'hôtel Bellevue, guère plus gros qu'un dé à jouer. De là jusque vers eux, s'étalait un panorama admirable, une montée de champs de neige dorés, orangés par le soleil, ou d'un bleu profond et froid, un amoncellement de glace bizarrement structuré, entourant en flèches, en aiguilles, arêtes, bosses gigantesques, à croire que dormait dessous le mastodonte ou le mégathérium disparu. Toutes les teintes du prisme s'y jouaient, s'y rejoignaient dans le lit de vastes glaciers roulant leurs cascades immobiles, croisées avec d'autres petits torrents figés dont l'ardeur du soleil liquéfiait les surfaces plus brillantes et plus unies. Mais à la grande hauteur, cet intestellement se calmait, une lumière flottait, écliptique et froide, qui faisait frissonner Tartarin autant que la sensation de silence et de solitude de tout ce blanc désert au repli mystérieux. Un peu de fumée et de sourdes détonations montèrent de l'autel. On les avait vus, on tirait le canon en leur honneur, et la pensée qu'on le regardait, que ces alpinistes étaient là, les Miss, Riz et Prunos illustres, avec leurs lorgnettes de braquet, rappela Tartarin à la grandeur de sa mission. Il t'arracha des mains du guide aux bannières tarasconnaises, te fit flatter, flotter deux ou trois fois, puis enfonçant son piolet dans la neige, s'assit sur le fer de la pioche, bannière au poing, superbe face au public. Et sans qu'il s'en aperçût, par une de ces répercussions spectrales fréquentes aux cimes, pris entre le soleil et les brumes qui s'élevaient derrière lui, un Tartarin gigantesque se dessina dans le ciel, élargi et trapu, la barbe hérissée hors du passe-montagne, pareil à un de ces dieux scandinaves que la légende se figure trônant au milieu des nuages. Chapitre 11. À la suite de l'ascension, le nez de Tartarin pela, bourgeonna, ses joues se craquelèrent. Il resta chambré pendant 5 jours à l'hôtel Bellevue. 5 jours de compresses, de pommades, dont il trompait la fadeur gluante et l'ennui en faisant des parties de cadrette avec les délégués ou leur dictant un long récit détaillé et circonstancié de son expédition pour être lu en séance au Club des Alpines et publié dans le Forum. Puis lorsque la courbature générale eut disparu et qu'il ne resta plus sur le noble visage du PCA que quelques ampoules, escarres, gerçures, avec une belle teinte de poterie étrusque, la délégation et son président se remirent en route pour Tarascon via Genève. Passons sur les épisodes du voyage, l'effarement que jeta la bande méridionale dans les wagons étroits, les paquebots, les tables d'hôtes, par ses chants, ses cris, son affectuosité débordante et sa bannière et ses alpenstocks, car depuis l'ascension du PCA, ils s'étaient tous munis de ces bâtons de montagne où les noms d'escalades célèbres s'enroulent, marqués au feu en vers de mirliton. Montreux ! Ici, les délégués, sur la proposition du maître, décidaient de faire halte 1 ou 2 jours pour visiter les bords fameux du Léman, Chillon surtout et son cachot légendaire dans lequel languit le grand patriote Bonnivard et qu'ont illustré Byron et Delacroix. Au fond, Tartarin se souciait fort peu de Bonnivard, son aventure avec Guillaume Tell, l'ayant éclairé sur les légendes suisses. Mais, passant à Interlaken, il avait appris que Sonia venait de partir pour Montreux avec son frère, dont l'état s'aggravait, et cette invention d'un pèlerinage historique lui servait de prétexte pour revoir la jeune fille et, qui sait, la décider peut-être à le suivre à Tarascon. Bien entendu, ses compagnons croyaient de la meilleure foi du monde qu'ils venaient rendre hommage au grand citoyen genevois dont le PCA leur avait raconté l'histoire. Même avec leur goût pour les manifestations théâtrales, sitôt débarqués à Montreux, ils auraient voulu se mettre en file, déployer la bannière et marcher sur Chillon au cri mille fois répété de « Vive Bonnivard !» Le président fut obligé de les calmer. « Déjeunons d'abord, nous verrons ensuite. » Et ils emplirent l'omnibus d'une pension Müller quelconque, stationnée ainsi que beaucoup d'autres autour du ponton de débarquement. « Vé, le gendarme, comme il nous regarde !» dit Pascalon, montant le dernier avec la bannière toujours très mal commode à installer. Et Bravida inquiet. « C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il nous veut, ce gendarme ?» de nous examiner comme ça. Il m'a reconnu, pardi, fit le bon Tartarin modestement. et il souriait de loin aux soldats de la police vaudoise, dont la longue capote bleue se tournait avec obstination vers l'omnibus filant entre les peupliers du rivage. Il y avait marché ce matin-là à Montreux, des rangées de petites boutiques en plein vent le long du lac, étalage de fruits, de légumes, de dentelles à bon marché, et de ces bijouteries claires, chaînes, plaques, agrafes, dont s'ornent les costumes des Suissesses, comme de neige travaillée ou de glace en perles. À cela se mêlait le train du petit port où s'entrechoquait toute une flottille de canots de plaisance aux couleurs vives, le transbordement des sacs et des tonneaux débarqués des grandes brigantines aux voiles en antenne, les rauques sifflements, les cloches des paquebots et le mouvement des cafés, des brasseries, des fleuristes, des brocanteurs qui bordent le quai. Un coup de soleil là-dessus, on aurait pu se croire à la marine de quelque station méditerranéenne entre Menton et Bordighera. Mais le soleil manquait et les Tarasconnais regardaient ce joli pays travers une buée d'eau qui montait du lac bleu, grimpait les rampes, les petites rues caillouteuses, rejoignait au-dessus des maisons en étage d'autres nuages noirs amoncelés entre les ombres verdures de la montagne, chargées de pluie à en crever. « Qu'aucun ne sort, je ne suis pas lacustre, » dit Spiridion, excourbagnès, essuyant la vitre pour regarder les perspectives de glaciers, de vapeurs blanches fermant l'horizon en face. « Moi non plus, » soupira Pascalon. Ce brouillard, cette eau morte, ça me donne envie de pleurer. » Bavida se plaignait aussi, craignant pour sa goutte sciatique. Tartarin les reprit sévèrement. N'était-ce donc rien que raconter au retour qu'ils avaient vu le cachot de Bonivard, inscrit leur nom sur les murailles historiques à côté des signatures de Rousseau, de Byron, de Victor Hugo, Georges Sand, Eugène Sue. Tout à coup, au milieu de sa tirade, le président s'interrompit, changea de couleur. Il venait de voir passer une petite toque sur des cheveux blonds en torsade. Sans même arrêter l'omnibus ralenti par la montée, il s'élança, criant « Rendez-vous à l'hôtel !» aux alpinistes stupéfaits. « Sonia, Sonia !» Oh, il craignait de ne pouvoir la rejoindre tant elle se pressait, sa fine silhouette en ombre sur le muretin de la route. Elle se retourna, l'attendit. « Ah, c'est vous !» Et sitôt le serrement de main, elle se remit à marcher. Il prit le pas à côté d'elle, essoufflé, s'excusant de l'avoir quitté d'une façon si brusque, l'arrivée de ses amis, la nécessité de l'ascension, dont sa figure portait encore les traces. Elle l'écoutait sans rien dire, sans le regarder, pressant le pas, l'œil fixe et tendu. De profil, elle lui semblait pâlie, les traits déveloutés de leur candeur enfantine, avec quelque chose de dur, de résolu, qui jusqu'ici n'avait existé que dans sa voix, sa volonté impérieuse. Mais toujours sa grâce juvénile, sa chevelure en or frisé. « Et Boris, comment va-t-il ? » demanda Tartarin, un peu gêné par ce silence, cette froideur qui le gagnait. « Boris !» elle tressaillit. « Ah oui, c'est vrai, vous ne savez pas. Eh bien, venez, venez !» Il suivait une ruelle de campagne bordée de vignes en pente jusqu'au lac, et de villas, de jardins sablés, élégants, les terrasses chargées de vignes vierges, fleuries de roses, de pétunias et de myrtes en caisse. De loin en loin, il croisait quelques visages étrangers, aux traits creusés, aux regards mornes. La démarche lente et malade, comme on emprunte à Menton, à Monaco. Seulement là-bas, la lumière dévore tout, absorbe tout, tandis que, sous ce ciel nuageux et bas, la souffrance se voyait mieux, comme les fleurs paraissaient plus fraîches. « Entrez !» dit Sonia, poussant la grille sous un fronton de maçonnerie blanche, marqué de caractères russes en lettres d'or. Tartarin ne comprit pas d'abord où il se trouvait. Un petit jardin aux allées soignées, caillouté, plein de rosiers grimpants jetés entre des arbres verts, de grands bouquets de roses jaunes et blanches, remplissant l'espace étroit de leur arôme et de leur lumière. Dans ces guirlandes, cette floraison merveilleuse, quelques dalles debout couchées, avec des dates, des noms, celui-ci tout neuf incrusté sur la pierre, Boris de Vassiliev, 22 ans. Il était là, depuis quelques jours, mort presque aussitôt leur arrivée à Montreux. Et dans ce cimetière des étrangers, il retrouvait un peu la patrie parmi les Russes, Polonais, Suédois, enterrés sous les fleurs, poitrinaires des pays froids, qu'on expédie dans cette Nice du Nord parce que le soleil du midi serait trop violent pour eux et la transition trop brusque. Ils restèrent un moment immobiles et muets devant cette blancheur de la dalle neuve sur le noir de la terre fraîchement retournée. La jeune fille, la tête inclinée, respirait les roses foisonnantes y calmant ses yeux rougis. « Pauvre petite !» dit Tartarin ému, et prenant dans ses fortes mains rudes le bout des doigts de Sonia, « Et vous maintenant, qu'allez-vous devenir ?» Elle le regarda bien en face avec des yeux brillants et secs où ne tremblait plus une larme. « Moi, je pars dans une heure. Vous partez ?»« Bolidine est déjà à Pétersbourg. Manilov m'attend pour passer la frontière. Je rentre dans la fournaise. » Oh, on entendra parler de nous. » Tout bas, elle ajouta avec un demi-sourire, plantant son regard bleu dans celui de Tartarin qui fuyait, se dérobait. « Qui même me suive ?»« Ah, bah, il y a à suivre. » Cet exalté lui faisait bien trop peur. Puis ce décor funèbre avait refroidi son amour. Il s'agissait cependant de ne pas fuir comme un pleutre. Et la main sur le cœur, en un geste d'abincérage, le héros commença. « Vous me connaissez, Sonia ?» Elle ne voulut pas en savoir davantage. « Bavard !» dit-elle avec un haussement d'épaule. Et elle s'en alla, droite et fière, entre les buissons de roses, sans se retourner une fois. Bavard, pas un mot de plus. Mais l'intonation était si méprisante que le bon Tartarin rougit jusque sous sa barbe et s'assura qu'ils étaient bien seuls dans le jardin et que personne n'avait entendu. Chez notre Tarasconnais, heureusement, les impressions ne duraient guère. 5 minutes après, il remontait les terrasses de Montreux d'un pas allègre, en quête de la pension Müller, où ses alpinistes devaient l'attendre pour déjeuner, et toute sa personne respirait un vrai soulagement, la joie d'en avoir fini avec cette liaison dangereuse. En marchant, il soulignait d'énergiques hochements de tête les éloquentes explications que Sonia n'avait pas voulu entendre, et qu'il se donnait à lui-même mentalement. Ben oui, certainement le despotisme. Ils ne disaient pas non, mais passer de l'idée à l'action bouffre. Et puis en voilà un métier de tirer sur les despotes. Mais si tous les peuples opprimés s'adressaient à lui comme les Arabes à bonbonner lorsqu'une panthère rôde autour du doigt, il n'y pourrait jamais suffire alors. Une voiture de louage venant à fond de train coupa brusquement son monologue. Il n'eut que le temps de sauter sur le trottoir. Prends donc garde, animal! Mais son cri de colère se changea aussitôt en exclamation stupéfaite. Qu'est-ce à dit ou pas possible? Je vous donne en mille de deviner ce qu'il venait de voir dans ce vieux landau. La délégation. La délégation au grand complet. Bravida, Pascalon, Escourbagnès, empilés sur la banquette du fond, pâles défaits égarés, sortant d'une lutte et deux gendarmes en face, le mousqueton au poing. Tous ces profils, immobiles et muets dans le cadre étroit de la portière, tenaient du mauvais rêve. Et debout, cloué comme jadis sur la glace par ses crampons Kennedy, Tartarin regardait fuir au galop ce carrosse fantastique derrière lequel s'acharnait une volée d'écoliers sortant de classe, leur cartable sur le dos, lorsque quelqu'un criait à ses oreilles « Et de quatre !» En même temps, empoigné, garrotté, ligoté, on le hissait à son tour dans un locati avec des gendarmes, dont un officier armé de sa lanne gigantesque, qu'il tenait toute droite entre ses jambes, la poignée touchant le haut de la voiture. Tartarin voulait parler, s'expliquer. Évidemment, il devait y avoir quelque méprise. Il dit son nom, sa patrie, se réclama de son consul, d'un marchand de miel suisse nommé Ichener qu'il avait connu en foire de Beaucaire. Puis devant le mutisme persistant de ses gardes, il crut à un nouveau truc de la féerie de Bompard et s'adressant à l'officier d'un air malin, c'est pour rire, que, ah, vrai farceur, je sais bien que c'est pour rire. Pas un mot, je vous bâillonne, dit l'officier, roulant des yeux terribles, à croire qu'il allait passer le prisonnier au fil de sa latte. L'autre se tint coi, ne bougea plus, regardant se dérouler à la portière des bouts de lac, de hautes montagnes d'un vert humide, des hôtels aux toitures variées, aux enseignes dorées, visibles d'une lieue et sur les pentes, comme au Rigi, un va-et-vient de bottes et de boues riches. Comme au Rigi encore, un petit chemin de fer cocasse, un dangereux jouet mécanique qui se cramponnait à pic jusqu'à Glion, et pour compléter la ressemblance avec Regina Montium, une pluie rayante et battante, un échange d'eau et de brouillard du ciel au Léman et du Léman au ciel, les nuages touchant les vagues. La voiture roula sur un pont-levis entre des petites boutiques de chamoiserie, canifs, tire-boutons, peignes de poche, franchit une poterne basse et s'arrêta dans la cour d'un vieux donjon mangé d'herbes, flanqué de tours rondes à poivrières, à moucharabis noirs, soutenues par des poutrelles. Mais où était-il? Tartarin le comprit en entendant l'officier de gendarmerie discuter avec le concierge du château, un gros homme en bonnet vert grec, agitant un trousseau de clés rouillées. Au secret, mais j'ai plus de place, les autres ont tout pris, à moins de le mettre dans le cachot de Bonivard. Mettez-le dans le cachot de Bolivar. C'est bien assez bon pour lui, commanda le capitaine. Et il fut fait comme il avait dit. Ce château de Chillon, dont le PCA ne cessait de parler depuis 2 jours à ses chers alpinistes, et dans lequel, par une ironie de la destinée, il se trouvait brusquement incarcéré sans savoir pourquoi, est un des monuments historiques les plus visités de toute la Suisse. Après avoir servi de résidence d'été au comte de Savoie, puis de prison d'État, de dépôt d'armes et de munitions, il n'est plus aujourd'hui qu'un prétexte à excursion comme le Rigiculm ou le Telsplate. On y a laissé cependant un poste de gendarmerie et un violon pour les ivrognes et les mauvais garçons du pays. Mais ils sont si rares dans ce paisible canton de Vaud que le violon est toujours vide et que le concierge y renferme sa provision de bois pour l'hiver. Aussi, l'arrivée de tous ces prisonniers l'avait mis de fort méchante humeur, l'idée surtout qu'il n'allait plus pouvoir faire visiter le célèbre cachot à cette époque de l'année, le plus sérieux profit de la place. Furieux, il montrait la route à Tartarin, qui suivait sans le courage de la moindre résistance. Quelques marches branlantes, un corridor moisi, sentant la cave, une porte épaisse comme un mur avec des gonds énormes, et ils se trouvèrent dans un vaste souterrain voûté, au sol battu, aux lourds piliers romains, où restent scellés des anneaux de fer enchaînant jadis les prisonniers d'État. Un demi-jour tombait avec le tremblotement, le miroitement du lac, à travers d'étroites meurtrières qui ne laissaient voir qu'un peu de ciel. Vous voilà chez vous, dit le geôlier, surtout n'allez pas dans le fond, il y a les oubliettes. Tartarin recula épouvanté. Les oubliettes, au bout de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, mon garçon? On m'a commandé de vous mettre dans le cachot de Bonivard. Je vous mets dans le cachot de Bonivard. Maintenant, si vous avez les moyens, on pourra vous fournir quelques douceurs, par exemple une couverture et un matelas pour la nuit. Oh, d'abord à manger, dit Tartarin qui, fort heureusement, on n'avait pas ôté sa bourse. Le concierge revint avec un pain frais, de la bière, un cervelas, dévoré avidement par le nouveau prisonnier de Chillon, à jeun depuis la veille, creusé de fatigue et d'émotion. Pendant qu'il mangeait sur son banc de pierre dans la lueur du soupirail, le geôlier l'examinait d'un œil bonasse. Ma foi, disait-il, je ne sais pas ce que vous avez fait, ni pourquoi on vous traite si sévèrement. Et coquin de sort, moi non plus, je ne sais rien, fit Tartarin la bouche pleine. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous n'avez pas l'air d'un mauvais homme, et certainement vous ne voudriez pas empêcher un pauvre père de famille de gagner sa vie, n'est-ce pas? Eh ben voilà. J'ai là-haut toute une société venue pour visiter le cachot de Bonivard. Si vous vouliez me promettre de vous tenir tranquille, de ne pas essayer de vous sauver. Le bon Tartarin s'y engagea par serment, et 5 minutes après, il voyait son cachot envahi par ses anciennes connaissances du Rigiculm et de la Telsplate, l'Anbate Schwanthaler, l'Ineptissimus Astiereu, le membre du Jockey Club avec sa nièce, et tous les voyageurs du Circulaire Cook. Honteux, craignant d'être reconnu, le malheureux se dissimulait derrière les piliers, reculant, se dérobant à mesure qu'approchait le groupe des touristes précédé du concierge et de son boniment, débité d'une voix dolente. C'est ici que l'infortuné m'en y va. » Ils avançaient lentement, retardés par les discussions des deux savants toujours en querelle, prêts à se sauter dessus et agitant l'un son pliant, l'autre son sac de voyage, en des attitudes fantastiques que le demi-jour des soupiraux allongeait sur les voûtes. À force de reculer, Tartarin se trouva tout près du trou des oubliettes, un puits noir, ouvert au ras du sol, soufflant la laine des siècles passés, marécageuse et glaciale. Effrayé, il s'arrêta, se pelotonna dans un coin, sa casquette sur les yeux. Mais le salpêtre humide des murailles l'impressionnait. Et tout à coup, un formidable éternuement qui fit reculer les touristes les avertissait de sa présence. « Tiens, Bonivard !» s'écria l'effrontée petite parisienne coiffée d'un chapeau directoire que le monsieur du Jockey Club faisait passer pour sa nièce. Le Tarasconnais ne se laissa pas démonter. Yeah, « C'est vraiment très gentil, mais ces oubliettes !» dit-il du ton le plus naturel du monde, comme s'il était en train lui aussi de visiter le cachot par plaisir. Et il se mêla aux autres voyageurs qui souriaient en reconnaissant l'alpiniste du Rigiculm, le bout en train du fameux bal. « Eh, monsieur, balir, dansir !» La silhouette falote de la petite fée Schwarzhaller se dressait devant lui, prête à partir pour une contredanse. Vraiment, il avait bien envie de danser. Alors, ne sachant comment se débarrasser de l'enragé petit bout de femme, il lui offrit le bras, lui montra fort galamment son cachot, l'anneau où se rivait la chaîne du captif, la trace appuyée de ses pas sur les dalles autour du même pilier, et jamais l'entendre parler avec tant d'aisance, la bonne dame ne se serait doutée que celui qui la promenait était aussi prisonnier d'État, une victime de l'injustice et de la méchanceté des hommes. Terrible, par exemple, fut le départ, quand l'infortuné Bonivard, ayant reconduit sa danseuse jusqu'à la porte, pris congé avec un sourire d'homme du monde. « Non, merci, mais je reste encore un petit moment. » Là-dessus, il salua, et le geôlier, qui le guettait, ferma et verrouilla la porte à la stupéfaction de tous. Quel affront ! Il en suait d'angoisse, le malheureux, en écoutant les exclamations des touristes qui s'éloignaient. Par bonheur, ce supplice ne se renouva plus de la journée. Pas de visiteurs à cause du mauvais temps. Un vent terrible sous les vieux ais, des plaintes montant des oubliettes comme des victimes mal enterrées, et le clapotis du lac, criblé de pluie, battant les murailles au ras des soupiraux, d'où des éclaboussures jaillissaient jusque sur le captif. Par intervalles, la cloche d'un vapeur, le glaquement de ses roues scandant les réflexions du pauvre Tartarin, pendant que le soir descendait gris et morne dans le cachot qui semblait s'agrandir. Comment expliquer cette arrestation, son emprisonnement dans ce lieu sinistre? Costeral, peut-être. Une manœuvre électorale de la dernière heure. Ou encore, la police russe, avertie de ses paroles imprudentes, de sa liaison avec Sonia et demandant l'extradition. Mais alors, pourquoi arrêter les délégués? Que pouvait-on reprocher à ces infortunés dont il se représentait l'effarement, le désespoir, quoiqu'ils ne fussent pas comme lui dans le cachot de Bonivard, sous ses voûtes aux pierres serrées, traversé à l'approche de la nuit d'un passage de rats énormes, de cancrelats, de silencieuses araignées aux pattes frôleuses et difformes. Oui, pourtant, ce que peut une bonne conscience. Malgré les rats, le froid, les araignées, le grand Tartarin trouva dans l'horreur de la prison d'État, hantée d'ombres martyrs, le sommeil rude et sonore, bouche ouverte et poings fermés, qu'il avait dormi entre les cieux et les abîmes dans la cabane du club alpin. Il croyait rêver encore au matin en entendant son geôlier. « Levez-vous, le préfet du district est là, il vient vous interroger. » L'homme ajouta avec un certain respect. « Bon, que le préfet se soit dérangé, il faut que vous soyez fameux scélérat. » Scélérat, non, mais on peut le paraître, après une nuit de cachot humide et poussiéreux, sans avoir eu le temps d'une toilette même sommaire. Et dans l'ancienne écurie du château, transformée en gendarmerie, garnie de mousquetons en râtelier sur le crépissage des murs, quand Tartarin, après un coup d'œil rassurant à ses alpinistes assis entre les gendarmes, apparaît devant le préfet du district, il a le sentiment de sa mauvaise tenue en face de ce magistrat correct et noir, la barbe soignée, et qui l'interpelle sévèrement. Vous vous appelez Manilov, n'est-ce pas? Ou sujet russe, incendiaire à Pétersbourg, réfugié et assassin en Suisse. Ah, mais jamais de la vie, c'est une erreur, une méprise. Taisez-vous, je vous bâillonne, interrompt le capitaine. Le préfet correct reprend. D'ailleurs, pour couper court à toutes les délégations, connaissez-vous cette corde? Sa corde, coquin de sort. Sa corde tissée de fer, fabriquée en Avignon. Il baisse la tête à la stupeur de délégué et dit : Je la connais. Avec cette corde, un homme a été pendu dans le canton d'Unterwald. Tartarin, frémissant, jure qu'il n'y est pour rien. Nous allons bien voir. Et l'on introduit le ténor italien, le policier que les nihilistes avaient accroché à la branche d'un chêne au Brunig, mais que des bûcherons ont sauvé miraculeusement. Le bouchard regarde Tartarin. C'est pas lui! Les délégués. Oh, ni cela non plus, on s'est trompé! Le préfet, furieux à Tartarin. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? C'est ce que je me demande, V, répond le président avec l'aplomb de l'innocence. Après une courte explication, les alpinistes de Tarascon, rendus à la liberté, s'éloignent du château de Chillon, dont nul n'a ressenti plus fort qu'eux la mélancolie oppressante et romantique. Ils s'arrêtent à la pension Muller pour prendre les bagages, la bannière, payer le déjeuner de la veille qu'ils n'ont pas eu le temps de manger, puis filent vers Genève par le train. Il pleut. À travers les vitres ruisselantes se lisent des noms de stations d'aristocratiques villégiatures, Clarence, Vevey, Lausanne. Les chalets rouges, les jardinets d'arbustes rares passent sous un voile humide où s'égouttent les branches, les clochetons des toits, les terrasses des hôtels. Installés dans un petit coin du long wagon suisse, deux banquettes se faisant face, les alpinistes ont la mine défaite et déconfite. Bravida, très aigre, se plaint de douleur et tout le temps demande à Tartarin avec une ironie féroce. Eh bien, vous l'avez vu le cachot de Bonivard. Vous vouliez tant le voir. Je crois que vous l'avez vu, Kay. Escourbagnès, aphone pour la première fois, regarde piteusement le lac qui les escorte aux portières. En voilà de l'eau, Biodiou. Après ça, je ne prends plus de bain de ma vie. Abruti d'une épouvante qui dure encore, Pascalon, la bannière entre ses jambes, se dissimule derrière, regardant à droite et à gauche comme un lièvre, crainte qu'on le rattrape. Et Tartarin, oh lui, toujours digne et calme, il se délecte en lisant des journaux du midi, un paquet de journaux expédiés à la pension Muller et qui tous reproduisent, d'après le forum, le récit de son ascension, celui qu'il a dicté, mais agrandi, enjolivé d'éloges mirifiques. Tout à coup, le héros pousse un cri formidable qui roule jusqu'au bout du wagon. Tous les voyageurs se sont dressés, on croit à un tamponnement. Non, simplement, un entrefilet du forum que Tartarin lit à ses alpinistes. Écoutez ça! Le bruit court que le VPCA Costecalde, à peine remis de la jaunisse qu'il alitait depuis quelques jours, va partir par l'ascension du Mont Blanc, monter encore plus haut que Tartarin. Oh, le bandit! Il veut tuer les fées de ma Jungfrau! Eh bien, attends un peu, je vais te la souffler, ta montagne. Chamonix est à quelques heures de Genève. Je ferai le Mont Blanc avant lui. En êtes-vous, mes enfants? Bravida proteste. Outre, il en a assez des aventures. Assez, plus qu'assez, hurle Escourbagnès tout bas de sa voix morte. Et toi, Pascalon? Demande doucement Tartarin, l'élève belle sans oser lever les yeux. Maître, celui-là aussi le reniait. C'est bien, dit le héros solennel et fâché. Je partirai seul, j'aurai tout l'honneur. Allez, Zou, rendez-moi la bannière.